Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à l'un des moteurs économiques les plus méconnus dans notre monde aujourd'hui. Il représente pourtant quelque 10% du produit intérieur brut mondial et pas moins de 300 millions d'emplois dans le monde. Le tourisme, un nouveau secteur stratégique qui regroupe un ensemble d'activités de plus en plus diversifiées et qui bien évidemment a largement profité dans les dernières décennies des remarquables progrès dans les transports ferroviaires, aériens et maritimes. Regard sur la manière dont la carte du tourisme mondial s'est redessinée ces dernières années. Tourisme et géopolitique avec nos invités Béatrice Gibelin, géographe, spécialiste de géopolitique, directrice de la revue Hérodote, qui est une revue de géographie et de géopolitique et qui précisément a consacré une édition au tourisme sous le titre Géopolitique du tourisme. Bonjour.
Bonjour.
Christian Giraud, géographe également, directeur de recherche au CNRS et auteur du dossier sur le tourisme dans Images économiques du monde aux éditions d'Uno Collin. Bonjour.
Bonjour.
Et la revue Hérodote, qui, je le rappelle, est publiée par les éditions La Découverte. Alors, Chine, Malaisie, Corée du Sud, Inde, à l'image du commerce mondial qui s'est sensiblement déplacé en Asie, les pays de la région ont vu émerger une classe moyenne qui partage les mêmes besoins de découverte qu'Européens et Américains. Résultat, le voyageur chinois a dépassé le voyageur américain pour devenir la plus importante force de l'industrie du tourisme. Les voyageurs internationaux chinois ont dépensé l'an dernier 261 milliards de dollars, soit davantage que le produit intérieur brut de la Grèce et du Portugal réunis. La population chinoise, une formidable manne pour le tourisme mondial, ce qui ne va pas sans exacerbation de la concurrence pour les pays potentiellement destinataires du tourisme chinois. Le tourisme est devenu un phénomène mondial massif, concernant plus d'un milliard de personnes par an et générant annuellement, et là je parle aussi sous votre contrôle, près de 1500 milliards de dollars de recettes. Peut-on dire que la Chine est devenue la locomotive du tourisme mondial? Et comment la classe moyenne chinoise bouleverse-t-elle les cartes du tourisme mondial, Béatrice Gibelin?
Je n'irai pas jusque-là, ou du moins pas encore. Peut-être que ça viendra, mais il faut quand même raison garder. C'est évident que cette rapidité de la croissance économique chinoise et de la création d'une classe moyenne chinoise, qui évidemment se chiffre en centaines de millions de gens, puisqu'on part sur une base d'1,3 milliard de Chinois, avec un pouvoir d'achat, pour certains d'entre eux, extrêmement élevé, avec des gens qui ont l'habitude de payer en liquide pour... Ça aussi, c'est une donnée qui est tout à fait importante sur la sécurité de nos touristes chinois, sur, par exemple, l'esplanade du Louvre, où on sait que la situation est parfois scabreuse pour eux. Bien, mais néanmoins, on ne peut pas seulement, j'allais dire, permettre d'expliquer et de rendre compte de ce phénomène, et vous avez raison d'insister, c'est un phénomène extrêmement important. Quand il y a 1,2 milliard de touristes dans le monde, avec une croissance qui a été quand même importante, quand on a fait le numéro d'Hérodote en 2007,
donc il y a
10 ans, on était à un peu plus de 800 millions de touristes. Donc on a vraiment une croissance extrêmement importante. Alors, à l'époque, effectivement, l'essentiel du tourisme, c'était les pays, pour faire simple, dit de l'Occident, et les Européens tenaient une part majeure là-dedans. Alors, il faut aussi peut-être préciser que quand on donne ces grands chiffres, on parle aussi d'un tourisme interne aux États, et pas seulement un tourisme à l'étranger, qui lui a une part plus réduite. Bon, le tourisme interne, c'est extrêmement important, y compris en Chine. La découverte de son propre pays, c'est quelque chose de tout à fait majeur, surtout sur des pays qui ont quand même une fibre nationaliste qui est très importante. Donc, aller voir les grands lieux, le patrimoine, découvrir le patrimoine du pays, c'est une façon de se le réapproprier encore et d'alimenter ce sentiment national. Puisque votre émission s'appelle Géopolitique du tourisme, il faut pas négliger cet aspect-là, de la géopolitique interne et ne voir que ceux de la classe moyenne qui, grâce à des transports moins chers et l'augmentation de niveau de vie important, peuvent partir dans des tours opérateurs.
Alors, tourisme interne, on l'a bien compris, tourisme international, on voit quand même les pays potentiellement destinataires du tourisme chinois, Christian Giraud, faire montre de beaucoup d'originalité pour attirer le touriste chinois. Ça, c'est une grande évolution.
Oui, je pense que c'est un phénomène, comme disait ma collègue Béatrice Gibelin, c'est un phénomène majeur, effectivement, le tourisme chinois. Je dirais, au-delà, le tourisme en Asie-Pacifique, il faut voir l'ensemble de la région. C'est vrai, par exemple, que le Japon est un acteur majeur également. Et d'ailleurs, il y a des liens très importants entre le tourisme des Chinois vers le Japon. En particulier pour les achats, pour les motivations d'achat, vers les destinations voisines. Bon, Hong Kong, évidemment, est un territoire chinois, mais avec un statut spécial. Et il y a un tourisme important entre le continent et Hong Kong pour acheter des produits qu'on ne trouve pas nécessairement en Chine continentale. Par exemple, Macao, également un territoire chinois avec un statut spécial, pour la question du jeu. Il faut savoir que Macao est quand même la première place de jeu dans le monde, devant Las Vegas, il faut le rappeler. Donc en fait, c'est l'ensemble Asie-Pacifique qui forme une sorte d'espace touristique où effectivement les Chinois vont être les acteurs majeurs. Et les Chinois vont se déployer, à ce moment-là, le tourisme chinois, de la clientèle chinoise, va se déployer en particulier sur l'Asie du Sud-Est également. Thaïlande, Philippines, Vietnam...
Je voudrais rebondir sur deux termes qu'a employé Christian Giraud, la motivation d'achat du touriste chinois et le jeu. Béatrice Gibelin, est-ce que on peut résumer le tourisme chinois à ces deux pôles de concentration?
Non, ce serait vraiment voir les choses de façon un petit peu méprisante, je trouve, pour les Chinois, même si Christian Giraud a parfaitement raison. Les Chinois sont extrêmement joueurs. Le pari, le jeu, c'est très important dans la culture chinoise. Bon, et puis cette fringale d'achat, vous savez, quand on sort d'un régime communiste où tout le monde était habillé pareil avec le même vélo, enfin je caricature un peu.
On peut comprendre
qu'on ait envie et puis de marques, parce que la réussite sociale, c'est des marques. Donc on va acheter effectivement ce qu'on n'a pas sur place. Encore que maintenant, toutes les grandes enseignes soient très présentes dans les très grandes métropoles chinoises, quelles qu'elles soient. Vous avez quand même aujourd'hui, mais enfin c'est pas tous les Chinois bien sûr, y compris ceux de la classe moyenne, mais quand vous avez 3 ou 4 concessionnaires Rolls-Royce en Chine, vous allez plus avoir tellement besoin d'aller ailleurs acheter vos achats. Mais c'est vrai que ça a été une motivation. Et puis pour venir à Paris, c'est aussi une motivation. Le luxe parisien, l'image de Paris, etc. continue de jouer beaucoup. Mais comme je le disais, il y a aussi l'envie d'une découverte d'autre chose que simplement les achats et le jeu, même si effectivement l'Asie du Sud-Est est importante, sachant qu'on a une diaspora chinoise dans l'Asie du Sud-Est qui est importante et qui tient très souvent les liens du commerce et ou des hôtels ou autres. Vous savez, on peut avoir quitté la Chine depuis plusieurs générations, on restera toujours chinois. Donc c'est très important d'avoir une diaspora qui est capable aussi d'accueillir pas tous, évidemment, il y en a d'autres, mais capables d'accueillir, au fond, ce qui sont toujours des nationaux.
Alors, la croissance exponentielle du tourisme dans le monde, on l'a dit, d'une part, c'est l'émergence de classes moyennes dans les pays émergés ou émergents. Il y a aussi le développement des transports, Christian Giraud, et il est évident que l'avion, joue dans cette croissance exponentielle du tourisme un rôle extrêmement important.
Oui, l'avion joue un rôle très important. C'est vrai que quand on regarde les statistiques, on voit la croissance de la circulation aérienne, les volumes de passagers dans les aéroports au niveau mondial. Et pour la France, encore récemment, on a noté pour les aéroports de Paris une croissance assez importante. Tous les transports sont concernés par le tourisme, le transport ferroviaire également, les autobus. On voit le développement des autobus en Europe, par exemple. La voiture individuelle. Il y a un aspect aussi...
Les croisières, c'est ce que j'allais dire.
Les croisières, effectivement, c'est un secteur qui paraissait un peu rétro, on va dire, avec une clientèle, il y a quelques années, c'était
les retraités.
Les retraités, voilà, c'était essentiellement troisième. Et la croisière a explosé. Elle a explosé au niveau mondial. La croisière, effectivement, elle a des bassins privilégiés qui sont les Caraïbes et la Méditerranée, le bassin méditerranéen et le bassin caraïbe, qui sont deux bassins de mer fermés d'une certaine manière, et qui se prêtent bien au tourisme de croisière par l'importance des sites qui peuvent être visités, par le nombre de sites et le passage d'île en île, etc., avec des bases assez importantes comme Miami, San Juan pour les Caraïbes, ou pour Venise, Marseille, Barcelone pour la Méditerranée. Et en fait, ce tourisme de croisière est exposé parce que la clientèle est devenue multi-âge. C'est-à-dire ce sont les jeunes, ce sont les familles, ce sont des personnes de tout âge et de toutes conditions qui accèdent à, d'une façon démocratique, on veut dire, à un tourisme qui est extrêmement rentable pour les compagnies qui se sont lancées là-dedans. Et en fait, on voit que les prix sont très attractifs. Donc, on va développer une clientèle et parce que, si vous voulez, c'est très rentable.
Alors, c'est très rentable. Donc, une croisière, effectivement, ne coûte plus aujourd'hui le prix qu'elle coûtait il y a quelques années. Finalement, ce développement du tourisme, Béatrice Giblin, est-ce forcément une bonne nouvelle pour les pays destinataires ?
Tout phénomène est contradictoire, avec des aspects positifs et des aspects négatifs. Bon, sans prendre le plus grave, mais regardez tous les articles qu'il y a sur ces bateaux de croisière qui arrivent à Venise, par exemple, qui, d'une certaine façon, maintenant, les Vénitiens commencent à dire « mais notre ville est pourrie par tous ces touristes, elle perd son âme, c'est absolument
Ils n'ont pas tort, les Vénitiens.
Bon, ils n'ont pas tout à fait tort, à part que les touristes qui vont à Venise sont très, très limités. Ils vont sur la place Saint-Marc, ils vont autour de la place Saint-Marc, mais il y a longtemps qu'on sait que quand on s'éloigne un peu du pont Rialto et de la place Saint-Marc, on peut marcher dans Venise, même si vous allez dans le seul quartier de l'Arsenal, qui est quand même pas bien loin, il y a déjà plus grand monde. Mais ils n'ont pas tout à fait tort. Et ce qui est très... Alors, j'allais dire visuellement choquant, c'est ces énormes mastodontes qui viennent défigurer le paysage. Quand vous avez ça effectivement à l'entrée du Grand Canal, il y a quelque chose de choquant, surtout si on est un peu amoureux de Venise. Mais néanmoins, souvent ces bateaux sont un petit peu au large et parce que les ports ne peuvent pas forcément accueillir avec un tirant d'eau suffisamment profond pour ces mastodontes que c'est. Mais il est vrai quand on prend par exemple Dubrovnik, tôt le matin. C'est une ville extrêmement agréable et séduisante. Dès qu'il est 9h du matin, c'est absolument infernal, parce que c'est vraiment, on parle de horde touristique, et l'idée de la horde, c'est vraiment ceux qui arrivent et qui balayent tout sur son passage. C'est un petit peu exagéré dans le cadre des touristes. Et puis, le calme revient quand il est 7h du soir. Le succès de la croisière est traduit aussi en fait des gens qui ont besoin d'être très encadrés dans leur voyage.
C'est-à-dire, ce ne sont pas des aventuriers.
Tout est payé. On navigue la nuit. On arrive le matin. Alors, on peut aller se balader seul, mais souvent, on est quand même pris en charge.
Il ne faut surtout pas se perdre.
On revient. Et puis, on retrouve des formes de vie sur le bateau, de loisirs qui peuvent être comparables à ce qu'on peut avoir sur une plage l'été. On a des boîtes de nuit, on a des terrasses, on a des piscines, on a du cinéma. Donc, on retrouve, si vous voulez, une vie de station balnéaire sur le bateau, avec en plus de la visite, donc de la bonne conscience, on découvre évidemment la Méditerranée, les Caraïbes. Ceci étant, la Méditerranée asiatique, comme la définissait Lacoste, peut parfaitement être un grand lieu de croisière tout autant, parce qu'on va effectivement d'île en île et il y a aussi beaucoup de choses à voir. Donc le succès de la croisière, il est aussi lié, je crois, à ça. Et puis, c'est un vrai repos.
En tout cas, ce qu'on entend aussi, Christian Giraud, si on veut aller plus loin que ce que vient de dire Béatrice Giblin, c'est que finalement, ce tourisme de masse, alors la croisière, etc., modifie le voyage lui-même. Probablement, on ne recherche plus les mêmes choses aujourd'hui.
Certainement pas l'aventure, en tout cas.
Oui, c'est un tourisme massifié, donc là, c'est tous les défauts du tourisme de masse, c'est la concentration énorme, donc des visiteurs qui débarquent à telle heure le matin, qui rembarquent à 9h et qui rembarquent à 16h, qui sont en groupe et qui vont sur les mêmes terrasses, qui vont se retrouver, qui vont se croiser dans la visite de la cathédrale de Palma de Majorque, par exemple. Et effectivement, là, il y a un aspect de capacité de charge, comme on disait en géographie, qui est un peu dépassé, quoi. Parce que on a discuté, les spécialistes discutaient sur la capacité de charge du tourisme, et certains disaient non, finalement, l'expérience reste intéressante, reste valable. Mais c'est vrai que si on fait la queue pendant plus d'une heure pour visiter la pyramide du Louvre, pour visiter le Louvre, c'est très désagréable, quoi. Donc, il y a des limites à ne pas franchir. Et c'est vrai qu'avec la croisière, on semble dépasser les limites, puisque le problème, c'est le gigantisme des bateaux de croisière. Mmh. Autrefois, les bateaux de croisière avaient 800 000 passagers à bord. Maintenant, on pense à facilement 4 000, 5 000 passagers à bord, plus les membres d'équipage. On parle de 5 000 à 7 000 personnes sur un bateau. C'est une petite ville. Donc, c'est un gigantisme qui peut poser des problèmes de sécurité énormes. Les problèmes de Venise que vous avez évoqués, effectivement, par rapport à la population de Venise, visuellement, je suis complètement d'accord. Mmh. Esthétiquement, c'est atroce d'avoir ce paysage. Et en plus, à Venise, évidemment, il y a le problème typiquement local des fondations de Venise.
De l'impact de l'impact la circulation de ces bateaux sur
les fondations des palais de Venise.
Alors, Béatrice Giblin, vous avez évoqué Venise, Dubrovnik, on n'a pas parlé de Barcelone, qui a été
la réaction impactée du public, surtout des Barcelonais qui s'opposaient aux touristes.
C'est là-dessus que je voudrais qu'on parle quelques instants maintenant. Pour terminer cette première partie d'émission, on poursuivra dans la deuxième partie. Il y a une épidémie anti-touriste qui s'est développée en Europe, en Espagne, en Croatie, en Italie, au Portugal. C'est vrai que le mouvement a pris une nouvelle ampleur cet été. Le problème n'est-il pas un manque d'anticipation des autorités qui ont cherché finalement à faire du tourisme de nombre sans intégrer le bien-être des habitants? En tout cas, il y a eu un là de départ et une sorte de révolte qui se construit.
C'est toujours facile de dire après, les élus n'ont pas anticipé. Parce que quand les élus, on ne prévoit pas forcément qu'on va avoir ce succès du tourisme. Vous savez, avec les attentats qu'il va y avoir à Barcelone, ils vont être vite calmés. Et on va avoir une chute du tourisme à Barcelone, comme on l'a connu à Paris.
Mais ça revient, il y a une résilience.
Il y a une résilience. Mais ça serait intéressant de voir le temps qu'on aura pour la résilience. Parce que si ce genre d'attentat se multiplie, à mon avis, la résilience mettra beaucoup plus de temps pour revenir. Bon, je mets ça de côté. Mais il est facile de dire ils auraient dû anticiper. L'affaire de Barcelone, elle est montée sur le temps. Parce que un des moments où ça a vraiment commencé à bouger, c'est avec les Jeux Olympiques.
De 92.
Donc, on est quand même aujourd'hui, quand on réfléchit un peu, à 25 ans après. Donc, il est difficile de dire ils n'ont pas anticipé. Comment voulez-vous que des élus anticipent l'effondrement, par exemple, du prix des avions? Comment voulez-vous que les élus anticipent le fait qu'on ait un tourisme urbain du week-end dans la ville? On va passer 2 jours, 3 jours à Barcelone. On ne peut pas le reprocher de ne pas avoir envisagé ça. Alors, autre chose, les Barcelonais, dans un premier temps, y ont trouvé sérieusement avantage, parce que ça a une valorisation du foncier considérable, dont ils ont, eux, directement profité.
Alors, peut-être en tout cas, certains.
Mais ça peut être les mêmes qui aujourd'hui soient anti-tourisme. Vous savez, ça se voit extrêmement fréquemment. Hein, on vend le terrain et après on dit quoi? On a envahi, on n'est plus chez nous. Seulement quand on le leur rappelle, ça, ils aiment pas trop. Parce que ceux qui manifestent, c'est pas tellement ceux qui sont dans les quartiers paupérisés, à proximité même des Ramblas, comme il en existe encore à Barcelone, qui manifestent. Eux, ils cherchent à profiter un peu de cette manne autant qu'ils le peuvent. C'est plutôt des gens qui sont de niveau socio-culturel un peu élevé et qui sont dérangés par ces masses de gens qui circulent, où ils n'ont plus leurs habitudes dans leur café, où ils n'ont plus leurs habitudes dans le restaurant, où ils voient les prix monter et ça leur est désagréable. Donc moi, je serais un peu plus critique ou avec certaines retenues sur ce mouvement-là. Hein, un phénomène NIMBY d'une certaine façon.
Christian Giraud,
en ayant bien profité.
Vous êtes aussi critique.
Je suis tout à fait d'accord. En fait, ces révoltes anti-touristes, si on peut utiliser le mot, sont quand même limitées. C'est Barcelone, c'est Venise, c'est Dubrovnik. À Paris, on n'a pas vu ce phénomène. Parce que à Paris, on a beaucoup plus de points d'intérêt.
Donc les bateaux n'arrivent pas à Paris.
Donc les touristes peuvent se déplacer en visitant différents points.
On poursuivra dans la deuxième partie. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Béatrice Giblin et Christian Giraud, dans quelques
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le tourisme. Nous retrouvons nos invités, Béatrice Gibelin, géographe, spécialiste de géopolitique, directrice de la revue de géographie et géopolitique, la revue Hérodote, qui a consacré un numéro au tourisme mondial, et Christian Giraud, géographe également, directeur de recherche au CNRS et auteur d'un dossier sur le tourisme dans Images économiques du monde. Nous avons terminé, Christian Giraud, la première partie de l'émission sur l'épidémie anti-touriste qui se développe depuis quelque temps. On a parlé de l'Espagne, de la Croatie, de l'Italie, du Portugal, avec finalement des villes comme Venise, Dubrovnik, Barcelone, qui sont peut-être davantage concernées par le tourisme de masse, parce qu'au-delà des aéroports, ce sont aussi des ports, tout simplement, et que dans les ports peuvent arriver de gros paquebots. La question qui se pose est-ce que le tourisme est suffisamment organisé et pensé ? Christian Giraud.
Oui, les révoltes anti-touristes ont marqué les esprits là depuis quelques temps, depuis 2 ans, et puis encore cet été récemment. Dans le cas de Barcelone, je pense qu'il y a un phénomène nationaliste aussi, puisqu'en fait, il y a quand même le problème de l'indépendance de la Catalogne. Il y a une élection qui se profile très, très prochainement, là, le 1er octobre. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir des ressentiments ou des sentiments anti-touristes qui peuvent se manifester. Mais j'observe aussi que, par ailleurs, dans certaines régions, on cherche à attirer les touristes. Donc, en fait, le problème est double. Le tourisme apporte beaucoup. Le tourisme apporte beaucoup d'emplois. Il apporte une activité. Et puis, il apporte aussi une image souvent très favorable au pays. C'est quand même les grands pays touristiques. Ce sont des pays démocratiques. Je parle de la France. Je parle des pays d'Europe occidentale. Je parle du Canada. Je parle des États-Unis. Ce sont des pays démocratiques qui attirent les touristes parce qu'ils savent qu'il y a des conditions de circulation qui sont tout à fait acceptables. Une liberté de circulation, pas de problème de santé, c'est-à-dire une sécurité sanitaire, c'est très important. La sûreté, c'est pour ça aussi que les attentats ont touché le tourisme. Mmh. Bon, à Paris, les attentats à Madrid ou les attentats à Barcelone touchent directement, ou à Londres, touchent directement le cœur du tourisme. D'ailleurs, les djihadistes ou les terroristes visent souvent les lieux touristiques de préférence. À Istanbul, ça a été noté, bon, les bombes qui avaient éclaté à Istanbul, c'était situé sur le passage des groupes de touristes allemands.
En Tunisie également, au Maroc également, aussi.
C'était visé.
Béatrice Gibelin, Christian Giraud évoque le parallèle entre pays touristiques et pays démocratiques. Pourtant, l'industrie du voyage a longtemps fermé les yeux sur les réalités géopolitiques. Est-ce que on note une évolution ?
Ah oui, incontestablement. Parce que d'abord, les clients ne veulent pas aller là où il y a des risques. On l'a bien vu avec l'effondrement du tourisme en Égypte. Les attentats qu'il y a eu à Louxor ont été absolument dramatiques pour la Vallée des Rois. Les autorités ont lancé un tourisme interne avec des Égyptiens qui ont découvert le patrimoine de la Grande Antiquité, avec grand plaisir, comme la Tunisie d'ailleurs. La Tunisie a financé aussi un tourisme interne. Mais bien évidemment, il est loin de pouvoir compenser la manne touristique qu'il y avait des touristes étrangers. Et la situation économique pour l'Égypte est effectivement fragilisée par cet effondrement du tourisme et qui dure. Quand vous parliez de résilience, oui, la résilience dans des pays démocratiques où on a les moyens de remettre de la sécurité,
dans des pays plus sûrs,
des opérations sentinelles, voilà. Mais en Égypte, vous savez, quand vous dites à des amis que vous allez aller 10 jours en Égypte, quoi ? Tu vas en Égypte ou en Jordanie, par exemple, aller voir Petra. Quoi ? Mais tu vas là-bas. Mais c'est aujourd'hui, franchement, l'ensemble des pays, on va dire, de l'est de la Méditerranée, disons les pays arabes, de la Tunisie, on va même aller jusqu'à la Turquie. La Turquie a vu son tourisme s'effondrer, y compris par sa clientèle arabe. Parce que sa clientèle arabe était très importante. Iranienne et arabe, qui était importante en Turquie, elle s'est considérablement affaibli. Donc, c'est pas seulement les Occidentaux qui ont peur, c'est tout le monde. Donc, il faut faire attention quand on parle de résilience. Ah, ben, ça s'efface, ça va vite. Ça s'efface dans des villes comme Londres, comme Paris, peut-être comme Barcelone, ça sera à voir, parce que ce que dit Christian Giraud sur la situation géopolitique interne de l'Espagne aujourd'hui est tout à fait intéressante et doit être regardée de près. Mais pour les autres, vous savez, c'est une manne qui me manque très, très, très fortement. Et pour la Tunisie, je pense à la Tunisie et à l'Égypte. Et la Turquie, c'est un beaucoup plus grand pays avec une économie plus diversifiée. Le tourisme est important, mais il va être important essentiellement sur la côte de la mer Égée et sur la côte méditerranéenne. Mais pour le reste, l'activité économique, évidemment, de la Turquie, qui espérait rentrer dans les 10 plus grands pays économiquement développés du monde, il n'y a pas longtemps, c'est pas la même chose que quand vous êtes dans le cas de l'Égypte ou dans le cas de la Tunisie, pour lequel, là, c'est un vrai problème.
En tout cas, pour reparler de la Catalogne, on peut parfaitement imaginer qu'une Catalogne indépendante aurait encore plus besoin de tourisme qu'une Catalogne autonome au sein de l'Espagne.
Elle aura à gérer cette contradiction-là, ça ne sera pas la seule.
Alors, la fréquentation touristique en France, elle s'est maintenue à un bon niveau hein, pour l'année oui. 2017. On évoque le fait que la France se vend mieux comme destination avec Emmanuel Macron que les États-Unis avec Donald Trump.
Ça, non, moi je pense que ça c'est vraiment à la marge parce que les États-Unis se sont très bien vendus cet été parce que l'euro étant fort, le dollar étant faible, les familles ou ceux qui ont voyagé y ont trouvé effectivement des conditions plutôt favorable. Vous savez, seuls des gens très déterminés politiquement vont refuser d'aller aux États-Unis tant qu'il y a Trump, mais c'est quand même un nombre extrêmement réduit, très très petit de gens. Quant à dire les gens viennent parce que c'est Macron, d'abord parce que quand on prépare un voyage à l'étranger, on ne le prépare pas au mois de juin pour arriver en juillet. Donc on a fait des économies, on y a passé un peu de temps, on s'est inscrit dans des voyages, et ça c'était bien avant l'élection de Macron. Il faut rester raisonnable.
Alors, toujours à Paris, les Jeux Olympiques en 2024, Christian Giraud, Jeux Olympiques et accroissement du tourisme ou au contraire effondrement, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans
ce
sens?
Ça fait partie de la question de l'image des pays et je crois qu'effectivement le tourisme a tendance à améliorer l'image d'un pays. C'est-à-dire que les pays ont une certaine image sur le plan international, bon, par la presse, par les médias, les journalistes contribuent à ça et les chercheurs et les universitaires contribuent aussi à donner l'image de certains pays par les publications. Et effectivement, un pays touristique va avoir plutôt une bonne image. Je prends l'exemple du Mexique. C'est un pays qui a des sites remarquables. Je crois qu'il a 25 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Par ailleurs, c'est un pays qui a une tradition touristique, qui sait recevoir les gens, qui a des sites, des stations balnéaires très connues, comme Acapulco, comme Cancun, etc. Et donc, ça va contribuer à la bonne image du pays sur le plan international. C'est un pays qui est membre de l'OCDE, qui aspire à avoir un rôle sur le plan international. Et donc, tout ça va favoriser l'image. Donc, Mexico a reçu les Jeux Olympiques à une certaine époque. Récemment, Rio a reçu les Jeux Olympiques. Londres a reçu les Jeux Olympiques. Et Paris va organiser les Jeux Olympiques de 2024. Et ça contribue effectivement à l'image du pays. C'est favorable, c'est indiscutablement.
C'est un outil touristique. Alors, j'aimerais revenir sur la notion de patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut rappeler que ça a été créé en 1972 et c'est finalement un objet de prestige, de convoitise pour les États qui sont soucieux de faire valoir leurs sites historiques ou naturels et de les promouvoir sur la scène internationale. Finalement, de voir cette notion de patrimoine culturel mondial être détournée de son but officiel et utilisé comme outil touristique, Béatrice Giblin, est-ce qu'on peut avoir un esprit critique par rapport à cela ou...
Non, ça serait vraiment chercher à vouloir créer l'hostilité, la tension inutilement. Le patrimoine, mettre au patrimoine mondial de l'humanité, n'a jamais voulu dire qu'on ne pourrait pas s'en servir pour développer. Mmh. C'est une reconnaissance. Vous savez, vous avez au patrimoine mondial de l'humanité le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Bon, Donc, on ne peut pas dire qu'on ne mette que des choses qui vont alimenter le tourisme. Je pense que ça a été une réaction par rapport déjà à un développement de ce qu'on a appelé une forme de bétonisation ou de liquidation d'un certain nombre de quartiers, qu'on considérait comme taudifiés et en centre-ville et du passé faisant table rase. Et là, il y a eu une réaction et qui a fait qu'il a fallu essayer de se faire inscrire au patrimoine dans l'idée d'une préservation. Alors, dire que ça a été détourné parce qu'on en fait un argument de marketing, si vous voulez, ou commercial pour le tourisme, c'est de bonne guerre. J'allais dire, on est dans une économie marchande, que je chasse, c'est pas demain qu'elle va disparaître.
Hein. Et l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle se mérite, mais elle se mérite pas une seule fois, elle se mérite dans la durée. Je pense à la ville de Vienne, capitale de l'Autriche, qui est aujourd'hui menacée de perdre ce statut parce qu'il y a des immeubles en construction et que voilà.
C'est la contrainte d'être au patrimoine mondial de l'humanité. Vous figez, vous gelez une situation à un instant T. Je vais reprendre l'exemple du bassin minier parce qu'on pense jamais qu'il est au patrimoine de l'humanité.
C'est vrai.
Mais du coup, quand vous voulez maintenant faire des choses, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore dans cette région qui est chère à mon cœur, c'est difficile parce que, attention, patrimoine mondial de l'humanité. Or, il y a des choses qu'il faudrait absolument faire bouger. Pour les villes, autant pour certains sites, donc il faut géographique, de paysage ou autre, on peut penser qu'il faut effectivement les protéger. Je dois dire que pour les villes, je suis un peu plus réticente parce que le dynamisme de la vie fait que les choses doivent bouger. Regardez une ville comme Londres, comme elle s'est bougée. On peut trouver que c'est trop, on peut trouver que ce grand cornichon, puisque c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est vraiment
très beau,
pas ça.
Oui, c'est vrai.
Mais Paris a été un peu une ville musée. Elle commence juste à se réveiller. Et pour ma part, moi, je suis assez favorable au dynamisme des choses. Et cette idée que là, à l'instant T, maintenant, ça y est, on bouge plus et il faut garder, c'est quand même aussi une façon de regarder beaucoup dans le rétroviseur. Donc, l'histoire étant ma première discipline, je ne vais certainement pas aller contre, mais je pense qu'il faut rester, raison gardée face à cela. Et qu'une ville comme Vienne ait besoin de bouger, peut-être qu'il faut qu'elle perde son label patrimoine de l'humanité.
Ce qui ne nous empêchera pas de continuer
d'aller
à
Vienne
visite.
Et d'admirer les musées viennois.
Christian Giraud, un commentaire.
Oui, je disais, le tourisme est favorable à l'image internationale des pays parce que il donne une sorte de halo, d'aura internationale. C'est les pays, je veux dire, c'est presque un vote. Les touristes, quand ils choisissent une destination, ils votent d'une certaine manière pour la République dominicaine, pour le Mexique, pour la Colombie ou pour le Chili. Je prends les exemples que je connais mieux en Amérique latine. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont plutôt des repoussoirs. Et pour les raisons politiques qu'on a dit tout à l'heure, la question du terrorisme en particulier, qui a vraiment fait chuter le tourisme dans les pays qu'on a cités.
Ou la situation des femmes.
Situation des femmes également.
Ça aussi.
C'est très rebutant.
C'est une raison pour ne pas y aller.
En Afrique, malheureusement, la situation des femmes dans certains pays africains est tellement triste que, effectivement, parce que quand on parle des touristes, c'est les touristes masculins et féminins qui choisissent leur destination.
Alors, les raisons du tourisme, on l'a évoqué depuis le début de cette émission, il y a les choses à voir, il y a aussi la façon dont on se sent. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on parle un tout petit peu des critères qui font que tel pays sera une meilleure destination qu'une autre. Le décor ne suffit pas, Béatrice.
Non, mais c'est pour ça que je parlais, par exemple, de la situation des femmes. Il est évident, moi, j'ai l'occasion d'aller assez en Iran, enfin, j'y suis allée plusieurs fois, où je dois dire que, pour des raisons professionnelles, l'idée d'avoir la tête couverte ne me plaisait pas. Après, je me suis rendu compte que c'était plus cool que je ne l'imaginais. C'est pas l'Arabie Saoudite, l'Iran, ça n'a rien à voir. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a des réticences. Moi, j'aurais franchement du mal à aller faire du tourisme dans le Golfe Persique, je ne le cache pas. La situation des femmes, qui se battent d'ailleurs pour que ça bouge, m'indispose, me pèse d'une certaine façon. Regardez, le tourisme marocain, les autorités marocaines ont parfaitement compris comprise que le harcèlement dans les souks des touristes, viens voir la gazelle, etc., ce que j'ai à te montrer dans mon magasin, indisposait les gens. Et que certains ne voulaient plus flâner dans les souks, comme on l'avait d'ailleurs un petit peu au Caire. Mais le Caire n'avait pas réagi. Au Maroc, on a réagi. Et les choses se passent très différemment aujourd'hui. Donc, les ambiances comptent aussi beaucoup. Se sentir bien. Quand vous êtes la seule femme sur une terrasse de café et qu'ailleurs, il n'y a que des hommes, nous ne sommes absolument pas habitués à ça. Par ailleurs, il faut savoir aussi que le touriste doit faire attention à la façon dont il s'habille. On est dans des pays pour lesquels être dénudé, et dénudé peut commencer un peu tôt, est extrêmement dérangeant. Ce dont les djihadistes, que rappelait Christian Giraud, ont su profiter un peu, en disant, regardez cet Occident dépravé, par exemple. Donc, il faut savoir aussi se comporter. Mais quand on rentre dans une église, on ne rentre pas en short et décolleté non plus. Hein. On doit couvrir ses épaules et avoir une jupe un peu plus longue. Enfin, c'est une question du respect de l'autre. Mais c'est des deux côtés le respect de l'autre. Il faut qu'on sache respecter la culture et les habitudes des gens chez lesquels on va visiter pour 10 jours, 15 jours ou 8 jours. Mais il faut aussi que les autres acceptent de s'adapter à ce qui est une autre façon d'être et de faire sans agresser. C'est pas toujours si simple.
La notion de service, elle est également extrêmement importante. C'est-à-dire que le touriste qui voyage aujourd'hui se situe à un certain niveau international de confort et de pouvoir avoir ses besoins être satisfaits. Et je vais plus loin pour terminer cette émission. Le voyage est resté longtemps le dossier le moins important des agendas politiques des gouvernements dans le monde. Là aussi, c'est en train de changer, Christian Giraud.
Oui, effectivement, je crois que les gouvernements se sont rendus compte que le tourisme était un argument sur le plan des relations internationales, tout à fait. Donc, de toute façon, il existe un organisme international qui est l'Organisation Mondiale du Tourisme, qui est lié aux Nations Unies, qui a son siège à Madrid et qui donne des statistiques assez intéressantes concernant le tourisme et des études aussi, qui fournit des études concernant le tourisme. On se rend compte qu'il y a, d'une part, des facteurs critique pour établir un tourisme dans un pays. Les facteurs critiques, c'est les infrastructures, c'est l'hygiène et la santé, la sûreté des visiteurs, donc la sûreté personnelle, pas de criminalité, pas de troubles politiques, pas de terrorisme. Mais au-delà de ça, ce que vous dites est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la notion de service, je dirais la notion plus généralement d'hospitalité. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit un visiteur étranger, on le reçoit, il faut assurer un certain confort sur le plan des infrastructures, des transports, des hôtels, des hébergements. Et puis aussi, évidemment, il y a la communication. Et la communication passe souvent par la langue. C'est vrai que le tourisme bénéficie maintenant d'une lingua franca qui est l'anglais souvent, et du fait que les gens pratiquent de plus en plus des langues pour recevoir les touristes. Par exemple, on le voit à Paris, et c'est vrai qu'il y a 20 ans, les gens ne parlaient pas dans les services, ne parlaient pas l'anglais. Aujourd'hui, la plupart des gens, y compris à la RATP, parlent l'anglais pour aider les voyageurs. Donc, la notion d'hospitalité, l'accueil, la pratique des langues, et la pratique des langues et l'accueil passent souvent par la formation. En France, on a une formation touristique qui se passe par des écoles hôtelières, par la restauration, qui sont évidemment au niveau le plus élevé en Europe et dans le monde. Et c'est pour ça qu'il y a des écoles hôtelières qui reçoivent beaucoup d'étrangers ici en France. Donc, l'expérience touristique, ça se construit. Ça se construit presque sur des siècles, je dirais.
Béatrice Jubelin.
J'aime bien le terme d'hospitalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir seulement les touristes comme des clients auxquels il faut essayer d'extirper le maximum
de dépenses.
C'est pas
seulement le tiroir caisse ou la vache à lait.
Pas seulement le tiroir caisse ou la vache à lait. L'image d'un pays passe par l'hospitalité. Et si, au niveau formation, la France est d'un bon niveau, Pour l'hospitalité, parfois, il est bon de faire encore quelques efforts. C'est pas toujours gagné. Mais dans la pratique des langues, Christian Giraud a parfaitement raison. Mais pourquoi? Parce qu'on a une population française qui est jeune, qui a fait des études et qui a appris l'anglais plus ou moins bien, mais suffisamment pour pouvoir échanger un minimum avec des touristes. On peut se moquer de 80% d'une classe d'âge qui a le bac. Ben, ça a quand même quelques effets positifs sur un tourisme de services de premier niveau.
En tout cas, on a compris qu'il y avait des choses importantes à faire à ce niveau-là. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Béatrice Giblin, géographe, spécialiste de géopolitique, directrice de la revue Hérodote, revue de géographie, de géopolitique, qui a consacré la revue Hérodote à un numéro au tourisme. Et Christian Giraud, géographe et directeur de recherche au CNRS et auteur d'un dossier sur le tourisme dans Images économiques du monde. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand, Marjorie Bertin et Nathalie Laporte. À samedi.